Qui dans la Bible n'a pas son ou ses versets préférés? Vous savez, de ces citations qu'on aime à se remémorer et qui font du bien. Parmi ces références à succès, il en est d'incontournables qui font l'unanimité. Par exemple, Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comment rester indifférent à une telle invitation? Reste que présentée comme ça vient d'être fait, cette citation n'est pas complète, elle est tronquée. Parce que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chargez-vous de mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous devez être nombreuses et nombreux ce matin à avoir déjà entendu prêcher sur ce sujet. Et en général, l'orateur prend grand soin d'expliquer ce qu'est un joug. Peut-être aussi, se référant à l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 1, souligne-t-il la différence qui existe entre le joug du péché et de la loi et celui doux et léger de la grâce, de l'amour et de l'enseignement de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté de Christ que, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Dans ce texte, la métaphore est claire. Le joug symbolise l'asservissement. Sur ce sujet de l'invitation de Jésus au repos et sur le principe du joug, tout ou presque a été dit. Il nous fallait donc trouver une nouvelle fenêtre de tir. Eh bien, nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi, dans cette citation de Matthieu 11, Jésus emploie-t-il trois fois le possessif « mon » M-O-N. Prenez mon joug, mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous essaierons de développer trois lignes de réflexion à partir de ces trois possessifs. Mais avant cela, je vous invite à la chose suivante. Vous savez, il y a une histoire qui parle de l'Arlésienne, et dans cette histoire de l'Arlésienne, on ne la voit jamais. Eh bien, le joug, c'est pareil, on nous en parle, mais on n'en voit jamais. Donc, s'il y avait deux gars qui voulaient bien venir me prêter main forte, parce que si je sors de là, on ne me verra plus, les amis ne me verront plus à la visio. Est-ce que deux personnes veulent me donner un petit coup de main? Voilà, formidable, merci Guy, merci Adrien. Donc, venez vous mettre là à l'arrière. Hop. Voilà. Voilà. Et puis quand je vous demanderai de le soulever. Bon. Alors, un joug, c'est une pièce d'attelage qui est connue depuis la plus haute antiquité. Les Égyptiens s'en servaient déjà depuis belle lurette, et la Bible nous en parle depuis le livre des Nombres. Peut-être avant, je n'ai pas cherché. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'à l'époque de Jésus, tout le monde, même les petits-enfants, savaient ce qu'était un joug. En fait, tout le monde l'a su jusque dans les années 1950-60, à l'arrivée de la mécanisation. Et à partir de là, les choses se sont inversées. À présent, tout le monde sait ce qu'est un tracteur, et de moins en moins de monde sait ce qu'est un joug, et surtout quel usage on en faisait. C'est pourquoi ce matin, vous allez juger sur pièce. Alors, je vous lis ma fiche technique et je vais demander aux deux musclés qui sont là de soulever la pièce pour que cette... Voilà, chacun son côté pour que ça sorte vers l'assemblée. Voilà. Eh bien, un joug n'est rien d'autre qu'une pièce d'attelage sculptée dans une seule et même masse de bois, un bloc de bois. Et bien qu'il s'agisse d'un objet rustique, on s'étonne de voir qu'en réalité, son ergonomie est optimale. Aïe, 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 il a dit ergonomie, qu'est-ce. Bon, il y a plein de bouquins qui en parlent, mais pour faire court, l'ergonomie, c'est quand la forme est adaptée à la fonction. Hein, voilà, c'est très court. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un objet précontraint, c'est-à-dire il est légèrement arqué pour s'adapter aux forces de tractation. Et si on a l'impression, vu de loin, qu'il est assez mal dégrossi, on se rend compte que les zones d'encolure, c'est-à-dire ici et là, les zones qui venaient en contact du col des bœufs, est lissée comme du verre, pour qu'il n'y ait pas de frottement, pour qu'il n'y ait pas d'écharde sur le cou des animaux attelés. Il faut ajouter aussi que, vous pouvez peut-être le poser, puis après on le redressera parce que c'est lourd, et puis je les aime bien, je ne veux pas les faire souffrir. Il faut ajouter qu'un joug ne se résume pas à une seule pièce de bois, mais vous le voyez, il y a des liens. En général, il y avait 12 mètres de lanières de cuir, 6 pour chaque bête attelée, de façon à ce que l'ensemble soit bien arrimé au corps des animaux pour qu'il n'y ait pas de joug, de jeu ou de zone de frottement. Un dernier point, je pense que vous pouvez regagner. On va peut-être le mettre comme ça. Voilà, si, tiens, merci, tiens, voilà. Merci. Merci. On va le laisser là, comme ça, si à la fin du culte, vous voulez venir vous approcher pour voir à quoi ça ressemble de plus près. J'ajoute encore que les artisans qui fabriquaient ces objets s'appelaient des jouguiers. Ne cherchez pas sur le dictionnaire de l'Académie française, je pense que ça n'y figure pas, que c'est un mot populaire, mais qui a le mérite d'être clair. Et ces jouguiers ne faisaient que du sur-mesure. Ils se déplaçaient de ferme en ferme pour faire la connaissance des animaux et demandaient lequel serait à droite et lequel serait à gauche de la paire. Je vous invite maintenant à écouter un texte qui va vous paraître un peu long peut-être, mais qui est super intéressant. Je l'ai trouvé dans une revue régionale qui date d'une trentaine d'années et qui est une interview faite auprès des anciens dresseurs de bœufs de l'Aubrac. L'Aubrac, c'est la partie nord-est de la Lozère. Et c'est une région de France qui, pendant 2 siècles, a été connu pour la qualité de ses dressages. On envoyait des bœufs dressés depuis l'Aubrac jusque dans les départements qu'on désigne aujourd'hui comme les Hauts-de-France. On en envoyait partout. Donc, je vous lis cette interview telle qu'elle se présente. On n'attelait pas de bêtes au hasard. Le dresseur commençait toujours par une longue et minutieuse observation du comportement et des morphologies. Tout devait concorder, la taille, la tête, les cornes, aussi bien que le tempérament. Le dresseur les choisissait pour obtenir une paire homogène. Écoutez bien, le dressage commençait toujours pendant l'hiver, pendant les périodes de mauvais temps. Dans l'étable, le dresseur commençait par mettre côte à côte les deux bêtes qui allaient former une paire et les laisser attacher pendant 2 heures. C'est alors que pour la première fois, on leur posait le joug. Nous répétions l'opération tous les jours pour les habituer au joug. Après plusieurs semaines, nous les détachions de l'étable pour les conduire au dehors, toujours en hiver. 2 hommes les encadraient, équipés de l'aiguillon, c'est le bâton. Le premier passait devant et les appelait, l'autre marchait derrière et les poussait. Lorsqu'ils avaient accepté le joug, nous les entraînions plus loin dans la campagne. Les dresseurs choisissaient toujours des chemins étroits, bordée de murets de pierre pour que les bœufs ne puissent pas se retourner une fois qu'ils s'y étaient engagés. Lorsqu'ils s'étaient habitués à l'aiguillon, aux ordres et aux joues, ils ne bronchaient plus. Mieux encore, ils ruminaient, et c'est à cela que le dresseur savait qu'il s'était enfin soumis. Dans un second temps, nous les amenions sur un chemin très enneigé parce que la neige étouffait les bruits et les mettait en confiance. Au début, nous ne les attelions jamais à un tombereau ou à une charrette, car le cliquetis des moyeux et le passage des roues sur les cailloux les auraient effrayés. Nous leur faisions traîner un montage de fagots alourdis de pierre. Si elle était attelée ainsi tous les jours, une paire de bœufs obéissait au bout de 4 à 5 semaines, mais nous attendions une année avant de les accrocher à un véritable attelage. Et voilà les deux derniers paragraphes. Nous leur accordions un traitement de faveur en les faisant paître dans les meilleures parcelles, là où l'herbe était de qualité supérieure. L'hiver, ils bénéficiaient d'un fourrage meilleur que les autres, entreposé dans une réserve différente des autres. Et enfin, leur destinée, je lis, hein, c'est pas moi qui parle, hein, leur destinée s'entremêlait à l'existence personnelle du maître. Une étroite complicité unissait l'homme et l'animal. En toute saison, avant d'aller se coucher, le maître revenait à son étable pour s'assurer qu'il ne manquait de rien. C'était sa deuxième famille, l'objet d'attention et de soins incessants. Eh bien, excusez de le dire, mais je trouve ça magnifique. Dans notre texte, le possessif apparaît 3 fois. Un « mon » qui, tout aussi bien, aurait pu être, à propos du joug, utilisé par le jouguier, l'instructeur ou le dresseur, si vous préférez, et par le propriétaire. Premier point, le mont du jouguier. Là où d'autres n'auraient vu qu'un tronc, qu'une énorme bûche, le faiseur de joug, lui, imaginait et voyait par anticipation se dessiner l'objet à créer. Son joug devait être conçu de manière à ce que les charges à tracter soient harmonieusement et équitablement répartis. Et puisque nous parlons de voir à l'avance ou de savoir par anticipation, voici un autre exemple très différent. Mozart se comportait toujours dans ses créations de la même manière. Il entendait à l'avance. À l'avance, il élaborait mentalement son œuvre. Puis, lorsqu'il jugeait que cette conception était arrivée à son terme, il la transcrivait à toute allure sur une partition comme si elle lui était dictée. Il y a des ratures, il y a des reprises sur les manuscrits de Bach, il y en a aussi sur ceux de Beethoven, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ratures sur les manuscrits de Mozart. Dans son domaine, nous l'avons dit, le jouguier, lui aussi, savait à l'avance tout le parti qu'il allait tirer de telle ou telle pièce de bois. Bien avant que l'arbre n'ait poussé, bien avant que l'on en ait tiré des poutres, et bien avant que l'on en ait constitué une croix, Jésus savait parfaitement à l'avance quelle serait la portée de sa crucifixion. Ce serait l'unique moyen de salut du monde, mais aussi rapporter à chaque individu cette même croix allait devenir l'image ou le symbole d'un jumelage, d'un attelage essentiel à la marche du chrétien sur le chemin de la vie éternelle. Alors oui, pour chacune et chacun de nous, c'est racheté. C'est bien d'un joug doux et léger qu'il s'agit, non frottant, non pesant, non irritant. Alors oui, cette croix donne à Jésus l'occasion légitime de dire « mon joug ». Deuxième point, le « mon » de l'instructeur. Sur l'Aubrac, tout commençait dans l'étable. Le Fils de Dieu aurait eu bien des raisons de ne pas avoir envie de s'abaisser si bas, bien des raisons de ne pas d'être rebuté par l'exiguïté, l'obscurité et l'insalubrité de notre condition humaine. Mais non, c'est très précisément par l'étable qu'il a commencé. Les paysans nous l'ont dit. L'apprentissage ne se faisait jamais pendant la belle saison, mais toujours, pendant l'hiver. Non dans la liberté des vastes pâturages d'été, mais dans l'étable, quand les nuits sont froides, quand les nuits sont longues et hostiles. De même, le Seigneur, la plupart du temps, ne s'approche pas des personnes lorsqu'elles sont dans le meilleur de leur été, quand tout leur réussit, quand ils sont dans l'éclat solaire de leur plénitude. Bien souvent, le Seigneur Jésus vient s'établir ou établir sa première approche quand nous sommes dans des zones obscures de nos vies, quand la lisibilité de notre propre parcours nous paraît confuse ou malaisée. Les instructeurs de l'Aubrac commençaient simplement par mettre la future paire de travailleurs côte à côte pour qu'insensiblement chacun devienne le plus proche compagnon de l'autre. Là aussi, il y a quelque chose de très simple et de très beau. Le Seigneur, lui aussi, ne donne pas dans des démarches intrusives. Il sait s'y prendre pour devenir en douceur notre plus proche compagnon. Les dresseurs faisaient ensuite tirer une charge sans roue, un montage de fagots qui glissait sur la neige sans faire de bruit pour ne pas effrayer les bêtes. L'approche de Jésus est elle aussi une sorte de glissement feutré. Il n'y a ni tambour ni trompette dans son approche. Elle est progressive, adaptée, on pourrait dire précautionneuse. Selon les versions, ce texte de Matthieu 11 est souvent traduit par « Laissez-vous instruire par moi ». Mes amis, il faut pour cet apprentissage beaucoup de patience et d'amour de la part du Seigneur, car nous ne sommes pas faciles à apprivoiser. Nous sommes volontiers rebelles lorsqu'il s'agit de nous laisser conduire au gré de son instruction et de son enseignement. Mais notre Seigneur est un pédagogue avisé, un pédagogue appliqué, et c'est pourquoi, oui, décidément, ce Christ instructeur peut légitimement, pour la deuxième fois, employer le possessif « mon ». Troisième point, le « mon » du propriétaire, ou si vous préférez, le « mon » du maître. Le propriétaire était celui qui, au départ, versait un prix important pour acquérir ses bêtes. Jésus n'a-t-il pas payé le prix fort ? Souvenez-vous ce que disait notre interview. Leur destinée s'entremêlait à l'existence personnelle du maître. Une étroite complicité unissait le maître et l'animal. Tous les soirs, il revenait à l'étable pour s'assurer qu'il ne manquait de rien. C'était sa deuxième famille, l'objet d'attention et de soins incessants. Jésus est-il notre maître ? Oh, mille fois oui, il est notre maître. Mais enfin, quand même, un maître atypique, à tous égards. Pourquoi ? Parce que ce maître a consenti l'inconcevable. Un acte, un engagement de pure déraison, de pure folie. Il a consenti à être un co-attelé. Aucun puissant, aucune entité dite supérieure, aucun prétendant à un pouvoir, et qui plus est à la divinité, n'est un co-attelé, si ce n'est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. C'est là l'une des spécificités les plus irrationnelles, les plus déroutantes, les plus délirantes, mais les plus réelles de notre Seigneur et Sauveur. Christ, dans la même marche que moi, attelé, co-attelé, à chacune, à chacun de ses rachetés, tous les jours de la vie. Alors oui, mon maître peut pour la troisième fois légitimement employer le possessif « mon ». Il nous reste un quatrième point à considérer et il se présente à la forme interrogative. Pourrions-nous, légitimement aussi, user de ce même possessif ? Pouvons-nous, puis-je, dire mon joug ? À l'évidence, oui. Et si à l'évidence, il faut s'empresser de dire qu'effectivement, dans mon vécu, ce joug de Jésus est doux et léger, c'est une réalité quotidienne. Mais si tel n'est pas le cas, si le joug de mise en pratique quotidienne des enseignements du Christ n'est que contrainte et écrasement, alors c'est qu'il y a chez moi un problème central, essentiel, qui n'a pas été réglé. En effet, c'est le joug du péché, de la condamnation, de la perdition qui écrase, et certainement pas celui de l'amour de Jésus. Mais enfin, n'importe quel amoureux, n'importe quelle amoureuse vous le dirait, plus il y a d'amour, et plus le joug est léger. C'est le manque d'amour qui pèse, jamais sa surabondance. Nous arrivons à la partie la plus récréative de notre réflexion. Même peut-être un peu plus que récréatif, ça risque d'être un peu fantaisiste. Mais je vous rassure, ça ne sera que le moyen d'aller vers quelque chose d'absolument sérieux. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, il y a des passages de la Bible que je ne peux pas m'empêcher de visualiser. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Mon imagination me met en image. Je vous donne un exemple. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Je vais le lire deux fois, bien que vous le sachiez par cœur. « Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le sentier qui mène à la vie. » Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Alors, comment mon imagination fait-elle son cinoche ? D'un côté, je vois un chemin large comme une autoroute, en pente. Et sur cette autoroute, Gros, une foule festive, tout n'est qu'éclat de voix, rire, enfin, on se réjouit. Ah tiens, avant d'aller plus loin dans mon explication, je dois vous donner, faire part d'une petite anecdote qui m'est réellement arrivée. C'est une anecdote petite mais vraie. Figurez-vous qu'il y a quelques années, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, en plein été, je me baladais au Gros du Roi. Il y avait foule. Et devant moi marchait un mec qui portait un t-shirt. Et au dos de ce t-shirt, il était inscrit une phrase, allez savoir pourquoi, que j'ai retenue mot à mot. Sur ce t-shirt, il était écrit « Il y a toujours un endroit sur Terre où c'est l'heure de l'apéro. » Tous les individus de la foule dont on parlait tout à l'heure, tous portent le même t-shirt. Et tous, comme un seul homme, se précipitent vers le gouffre de Panurge. Bah. Et de l'autre côté. Ah. De l'autre côté. Je vois un petit sentier, sinueux, tortueux, plein de caillasses, bordé d'épines, de ronces et d'orties. Et sur ce petit chemin, quelques personnes, un sac plein de pierres sur le dos, dégoulinant de sueur et tirant une langasse comme le bras, et c'est coûte que coûte de grignoter. Quelques mètres de dénivelé. Bon, retenons plus ou moins l'histoire du chemin autoroute. Mais j'améliore l'histoire du petit chemin sinueux. J'aime l'idée que si ce chemin est effectivement étroit, en réalité, il ne laisse pas passer qu'une personne à la fois. Il me plaît de penser que ce sentier effectivement sinueux et resserré laisse passer de justesse, non une personne, mais un attelage. Un attelage, c'est-à-dire un chrétien et une chrétienne, chacune et chacun personnellement liés au Seigneur grâce au joug doux et léger de son enseignement et de son amour. Alors oui, dans ce cas de figure, chacune et chacun ici, moi y compris, nous pouvons légitimement aussi dire mon joug. Nous approchons de la fin. Déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque dite sous la loi, le roi David exprimait à sa manière la proximité et le lien d'amour qui unissait le Créateur et sa créature. Bien que l'image ne soit nulle part du joug, l'image du joug ne soit nulle part mentionnée, il est intéressant de faire ici deux ou trois remarques, car c'est bien d'un lien d'amour qu'il s'agit. Dans sa mise en mots, le psalmiste désigne l'action ou la présence de Dieu attelée au moi qui représente ma personne. Il y a un lien entre le verbe d'action qui est le fait de Dieu et le moi désirant être au bénéfice de cette action divine. À ce sujet, le psaume 119 est éloquent. Voilà une petite liste. Apprends-moi, fais-moi du bien, relève-moi, accorde-moi, enseigne-moi, soutiens-moi, donne-moi, libère-moi, entends-moi, réponds-moi, sauve-moi. Et il y en a d'autres, car le psaume 119 est très long. Vous n'êtes pas sans savoir que, dans notre belle langue française, quand le verbe impliquant l'autre est jumelé ou attelé à son destinataire, pour bien marquer ce lien, pour bien le notifier, la syntaxe ou la ponctuation exige qu'on le signale par un tiret entre les deux mots. Relève, tiret, moi. Apprends, tiret, moi. En fait, vous le savez tous, ce tiret porte un nom évocateur. Ça s'appelle un trait d'union. Trait, T-R-A-I-T. Comme un cheval de trait, une bête de trait. Il s'agit d'un trait d'union qui verbalise un lien rendant les deux acteurs indissociables. Exactement comme le ferait un joug. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai apprécié que ce culte commence par la lecture du psaume 23, parce que nous allons clore la boucle avec ce même psaume. Sauf que je vais joindre le geste à la parole. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Amen.